Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, Violette Voldoir, Caroline Bonin, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde par Théo Gomard. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec notre partenaire du Monde. Bonjour Maxemo.
Bonjour.
On va parler de l'Égypte ce matin après le double attentat qui a frappé la communauté copte dimanche dernier. Des attaques revendiquées par l'État islamique qui ont fait 45 morts à Tanta dans le delta du Nil et à Alexandrie. Il y a 4 mois déjà, une église copte du Caire avait été la cible d'un attentat suicide très meurtrier. Le gouvernement égyptien avait alors intensifié la lutte antiterroriste, notamment dans le Sinaï, véritable zone de non endroit où prospèrent des groupes djihadistes depuis le début des années 2000. Ce nouvel attentat dévoile-t-il l'échec de la politique répressive du président Sisi qui mène une guerre sans pitié aux frères musulmans et à toute forme d'opposition depuis près de 4 ans? On va en parler dans quelques instants avec nos deux invités que je remercie d'être là. D'abord Anne-Claire Bonneville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en histoire du monde arabe contemporain et auteur d'une histoire de l'Égypte moderne, l'éveil d'une nation 19e-21e siècle, publié chez Flammarion l'année dernière. À vos côtés, Stéphane Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CERI, le Centre de Recherche Internationale, et professeur à Sciences Po, spécialiste de l'islam politique et auteur avec Bernard Rougier de l'Égypte en révolution, paru au PUF en 2015. Mais avant cela, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste que nous recevons ce matin nous revient de Turquie. Bonjour Vincent Hugeux.
Bonjour.
Grand reporter à l'Express, vous êtes venu plusieurs fois à ce micro pour nous parler du continent africain que vous connaissez très bien. Mais cette fois, donc, c'est en Turquie et plus précisément dans la ville de Trabzon, une cité portuaire au bord de la mer Noire que vous vous êtes rendu. On est à peu près à 700 km d'Ankara, au nord-est du pays, dans le fief de la famille d'Erdogan. Sans surprise, ce bastion de l'AKP, le parti au pouvoir, devrait voter massivement en faveur du oui au référendum de dimanche. La réforme constitutionnelle, si elle est approuvée, donnera quasiment les pleins pouvoirs au chef de l'État turc. Est-ce que vous avez constaté, Vincent Hugeux, en arrivant à Trabzon, c'est que les Européens n'ont pas vraiment bonne presse dans la ville?
Non, c'est d'ailleurs un abcès de fixation extrêmement performant en termes de mobilisation politique. Lorsque vous discutez avec, par exemple, un trio de retraités sur une placette entre une mosquée et une statue de Mustafa Kemal en pied, on vous explique tout simplement que la moitié des Européens, je cite, sont des fascistes. Lorsque l'on objecte prudemment que les qualificatifs adressés à la chancelière allemande Angela Merkel sont pas nécessairement des facteurs de pacification des relations, on vous dit, en reprenant d'ailleurs à la virgule près la propagande maison, tant que vous désignerez Erdogan sous l'infamante épithète de dictateur, eh bien nous vous traiterons de nazi. Donc c'est une sorte de repoussoir. Je me souviens aussi d'une conversation avec un architecte, le seul d'ailleurs qui avait requis l'anonymat dans nos conversations, qui me disait, vous comprenez, on en a assez des dictates de Bruxelles, à quoi bon se mettre à genoux devant une Union européenne qui ne nous veut pas?
Cet anti-européanisme que vous avez constaté, c'est d'abord lié à ça, à ce piétinement des négociations en vue d'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne?
Même pas. Parce que dans l'esprit de la plupart de mes interlocuteurs, l'hypothèse qui peut apparaître d'ailleurs fictive aujourd'hui d'une adhésion un jour de la Turquie à l'Union européenne a disparu du paysage des écrans radars. Non, non, c'est bien davantage la cristallisation de l'hostilité, l'Europe comme repoussoir, l'Europe qui refoule nos ministres lorsqu'ils viennent prétendument animer un meeting électoral pré-référendaire. C'est cette Europe-là qui mobilise l'hostilité et l'aversion, avec de plus une portée, je dirais, de fantasmes économiques. Par exemple, je me souviens qu'un de ces retraités que j'évoquais à l'instant, il sort à un moment de sa poche une épaisse liasse de coupures de journaux et il finit par déplier un article qui montre quels seront les contours du futur grand aéroport d'Istanbul. Il dit, mais je sais pourquoi vous êtes tellement hostile. C'est parce que vous craignez que Istanbul supplante Francfort comme première plateforme aéroportuaire européenne. Et tout ça, dit-il en terminant son propos, au fond, ça renvoie à votre islamophobie incurable.
Les moyens déployés par les partisans du oui et par les défenseurs du non au référendum n'ont aucune commune mesure. La campagne du oui est soutenue par l'ensemble de l'appareil étatique et des médias, la plupart contrôlés par le pouvoir. À Trabzone, écrivez-vous, s'étalent partout des affiches à l'effigie du président ou d'autres figures de l'AKP avec l'inscription Evet qui signifie oui en turc. Et ce que vous avez constaté, c'est qu'on mobilise toutes sortes de moyens pour faire campagne.
Dissymétrie patente, hein. On est dans un ratio de 1 pour 10 s'agissant des affiches, des grandes tentures murales devant les façades qui sont une tradition du théâtre électoral turc. Les minibus qui sillonnent à la fois les campagnes et les artères urbaines. Vous avez vraiment une domination écrasante. Et ce que m'expliquait par exemple au demeurant un observateur local qui n'avait pas de parti pris défini en l'occurrence, c'est que on bénéficie à la fois des moyens de l'État, des moyens du parti, bien entendu, de l'AKP, et des moyens de la municipalité. Il me disait tout ça ne coûte pas très cher, puisqu'au fond, il suffit de mettre à disposition, et c'est le cas de la mairie de Trabzon, l'ancienne Trébizon, donc il suffit de mettre à disposition le parc automobile municipal, de demander à des fonctionnaires de faire un peu de zèle militant, et on n'a pas besoin de débourser d'énormes sommes. En même temps, il est vrai que les acteurs économiques locaux, ceux qui veulent rester du côté du Manche, vont bien sûr contribuer volontairement, insiste-t-il, à la campagne en question.
Et donc vous avez trouvé assez difficile et assez difficilement des traces de la campagne du Hayir, du non, notamment à Trabzon évidemment, mais même à Istanbul.
Ah oui, mais de toute façon, je parlais tout à l'heure de cette dissymétrie, elle est patente partout. Alors, ça ne signifie pas que vous n'avez pas d'affiches, que vous n'avez pas de ces minibus, etc. Ils sont là, je veux dire, le Hayir est visible, mais encore une fois, dans une proportion quasiment dérisoire. Et dans une région comme celle de la Mer Noire, donc entre, grosso modo, Trabzon et Rize, qui est une ville qui est d'ailleurs plus proche du fief familial des Erdogan, il est assez difficile de trouver quelqu'un qui assume son refus de cautionner cet élargissement assez spectaculaire des pouvoirs du chef de l'État. Et je me souviens par exemple d'un dialogue qui était au fond assez touchant entre deux vieux amis. Vous aviez là un ancien militant de gauche, il était ambulancier pour la municipalité de Rize. Il exhibait volontiers ses 30 années, disait-il, de militantisme de gauche, mais lui qui avait décidé de voter oui, au nom de cette admiration qu'il portait à l'homme qui redresse la tête, qui défie nos ennemis, notamment européens, etc. Et en face de lui, j'avais enfin découvert une sorte d'épicurien barbu, qui tenait un bar et un restaurant de poissons sur le littoral, et qui, lui, était assez atterré, parce qu'il me disait, par exemple, je perçois chez mon ami, le fameux Selahattin, à la fois du défi et du déni, et je me souviens de cette expression qu'il avait employée, il disait « les partisans d'Erdogan le trouveraient au lit avec leur épouse au petit matin, qu'il persisterait à dire que ça n'existe pas ». C'est-à-dire donc il y a, dans son esprit, dit-il, une adhésion qui est quasiment religieuse, qui est quasiment sacrée au personnage. Et il y a cette autre expression que j'ai trouvée extrêmement frappante. Je reviens à mes retraités de la placette initiale. L'un disait « Oh, vous savez, moi, de toute façon, par exemple, dans une élection législative, un animal domestique, pourvu qu'il soit investi par Erdogan, recueillerait à coup sûr mon vote. Si Erdogan me le désigne comme le candidat de l'avenir et des bienfaits pour le pays, la nation, etc., il n'y a aucune raison que je conteste cette directive. »
À Trabzon, vous rencontrez aussi ce soutien de l'AKP qui dirige une société de construction, un secteur que la politique économique du gouvernement a largement favorisé. Cet homme, Metin Kefeliolu, semble être l'archétype de cette génération qui a profité de cette croissance de 5% en moyenne entre 2002 et 2012 en Turquie, sauf que depuis deux ans, l'économie marque le pas, notamment à cause de la chute des recettes du tourisme. Alors,
exactement. Il est effectivement cette sorte d'archétype-là. Il a pu bénéficier dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, des élans qui sont absolument incontestables. Il y a eu des travaux d'infrastructure spectaculaires. Il n'y a pas que le troisième pont sur le Bosphore qui a été inauguré voilà peu avec tout le spectacle que l'on connaît, toute la mise en scène, la dramaturgie classique en l'occurrence, mais il y a effectivement un phénomène assez troublant d'essoufflement. C'est-à-dire que on vous dit, par exemple, c'est un observateur local qui le soulignait, il dit par exemple, bon, le taux de chômage est officiellement à 12%, il dit en réalité ici, dans la région de Trabzon, il est autour de 20%. Et par ailleurs, il expliquait que un certain mieux-être pour les foyers, était lié aussi à un surendettement, à un accès extrêmement facile au crédit. Et troisième élément, il redoutait les effets d'un essoufflement de l'investissement à cause d'un climat d'incertitude et de tension politique, voire géopolitique. Et il soulignait enfin l'apathie très préoccupante dans cette région du tourisme. En disant, vous savez, c'est très bien parce que les émirs du Golfe goûtent les hauteurs verdoyantes de l'arrière-pays de la mer Noire, parfait, donc ils viennent investir, ils achètent, ils louent. beaucoup, ça c'est parfait, mais ils vont finir par se lasser parce que beaucoup d'entre eux viennent chercher une sorte d'atmosphère libérale qu'ils ne trouvent plus vraiment chez nous. Et il dit, en même temps, on perd sur les deux tableaux parce que les touristes européens sur lesquels nous comptions, eh bien, ils ne sont plus là non plus. Et pour l'anecdote, le fixeur, comme on dit notre jargon, l'accompagnateur, l'éclaireur avec qui j'ai travaillé, eh bien, c'est quelqu'un qui, normalement, est un professionnel du tourisme et qui, normalement, à cette période de l'année, vole d'un groupe à l'autre, qu'il accompagne de Istanbul à l'est du pays. Et là, il était totalement désœuvré parce que la fréquentation touristique, elle a chuté de manière spectaculaire, aussi évidemment du fait de l'impact d'actes terroristes très spectaculaires et récents, notamment à Istanbul.
Trabzon, c'est aussi la ville natale de Soliman le Magnifique, une référence souvent citée par le parti au pouvoir pour exalter le passé ottoman de la Turquie. Cette nostalgie de la puissance passée, c'est un point commun que vous relevez entre les partisans d'Erdogan d'un côté et les électeurs de Donald Trump.
Oui, parce que ce qui me frappe, si vous voulez, d'abord, il y avait une sorte d'impératif méthodologique. Je me méfie, par principe, de ces analogies géopolitiques ou historiques, de ces parallèles qui sont toujours un peu hasardeux. Impératif méthodologique, aller voir ce que ces gens ont dans les tripes. C'est-à-dire, si on a mis tant de temps à mesurer l'ampleur et la réalité du phénomène Trump aux États-Unis, c'est peut-être aussi parce qu'on a passé un peu trop de temps sur la côte Est et pas suffisamment dans le pays profond. De même, il faut essayer de comprendre, de discerner quels sont les ressorts de cette adhésion, que je disais tout à l'heure, quasiment religieuse, quasiment sacrée, envers ce personnage qui restaure auprès des nostalgiques d'une splendeur révolue, la splendeur de l'Empire ottoman, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et qu'ils veulent projeter. Il était, me semble-t-il, effectivement utile de les écouter. Et alors, méfions-nous là aussi, parce que, par exemple, Erdogan a une assise politique, une histoire politique qui est ancienne. Maire d'Istanbul, Premier ministre, président. Bon, ce n'est pas du tout l'histoire de l'homme d'affaires du prince de l'immobilier, Donald Trump. En revanche, dans l'adhésion, dans l'identification à celui qui redresse la tête, qui défie les élites pro-occidentales, européennes, etc., là, il y a évidemment un parallèle qui est imparable.
Vincent Richeux, vous vous êtes aussi rendu dans le village de Tepebazi, près de Trabzon, où Erdogan a vécu jusqu'à ses 6 ans, puis dans le quartier d'Istanbul, Kasım Pasha, où il a passé sa jeunesse. Vous avez vraiment suivi un peu les traces de la jeunesse d'Erdogan. Vous aviez envie de comprendre comment un jeune joueur de football plutôt talentueux avait pu devenir le chef d'État autocratique, un peu mégalomane qu'est Erdogan aujourd'hui.
Alors, c'est vrai, bon, il est certes né à Istanbul. Son père était un capitaine de la marine civile, non pas de la marine militaire. Mais il avait un fief qui était donc ce village de Tepebaşı sur les hauteurs de Rizeh, là où les gens vivent pour l'essentiel de la culture du thé. C'est d'ailleurs un paysage absolument admirable. Vous avez des rangs de théiers qui montent en rangs très sages jusqu'à ces villages au perché. Et là, il se trouve que j'ai rencontré à Tepebaşı un certain İsmet, qui est le fils du demi-frère prénommé Hasan Erdogan. Et j'ai discuté un peu avec lui. Alors évidemment, pas de grand suspense sur ce que sera le vote. Il y avait là, me disait-il, 200 foyers environ. Et il soulignait à quel point il serait surprenant qu'il n'y ait un seul vote haïr, un seul vote non. Et en même temps, pour mesurer un peu l'implantation de cette famille, Erdogan, en réalité, dès ses 6 ans, m'a-t-il expliqué, il vivait pour l'essentiel à Istanbul avec sa famille. Mais il revenait tous les étés pour la cueillette du thé et également pour les vacances, dans une période qui allait entre mai et août-septembre. Et donc, il avait gardé cette attache-là. Et puis, quand vous descendiez de quelques centaines de mètres, il y avait là une autre fermette. Et dans la terre assez grasse qui entourait cette ferme, vous aviez une dizaine de pierres tombales, toutes au nom d'Erdogan. C'est vous dire à quel point il y avait là une implantation de la famille du clan Erdogan profonde. Et c'est vrai que quand vous évoquez cette filiation-là, elle fait évidemment vibrer une corde. Alors, pour le coup, pas seulement national, mais je dirais régional et local.
Pour gagner ce référendum, Vincent Hugeux, Erdogan a besoin absolument des voix de la droite nationaliste. Or, si le chef du parti, Devlet Bahçeli, soutient le oui, la base du MHP, le Parti d'Action Nationaliste, est plutôt en faveur du non. Certains leaders du MHP craignent que la victoire du oui entraîne tout simplement une disparition de leur parti. Et la direction du parti nationaliste a même expulsé récemment 4 poids lourds du parti. Vous avez pu constater ces divisions sur le terrain au sein de la droite nationaliste?
Alors, j'ai trouvé quand même un militant MHP tout à fait fier de dégainer sa carte de membre depuis plus de 30 ans, qui m'a dit « Moi, je vote Erdogan les yeux fermés. Mais il admettait lui-même qu'il y avait un trouble certain au sein de la base. Et vous citiez donc la purge qui a eu lieu très récemment au sein de ce parti, puisqu'il y a une vraie fracture entre l'appareil, celui qui a décidé de pactiser avec l'AKP Erdogan, et puis la base. Il y a donc cette ancienne ministre de l'Intérieur qui s'appelle Meral Akşener, qui elle est extrêmement populaire, qui incarne le refus de ce pacte avec Erdogan, et qui est par exemple l'une de celles qui n'hésite pas à dénoncer, y compris en public, la collusion ancienne, aujourd'hui révolue, entre Recep Tayyip Erdogan et le fameux Fethullah Gülen, ce prédicateur aujourd'hui réfugié en Pennsylvanie aux États-Unis, qui passe, non sans raison d'ailleurs, pour sinon le cerveau, du moins l'inspirateur ou l'un des inspirateurs du putsch avorté de juillet dernier.
Si le texte est validé par référendum dimanche, Erdogan pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2029. Il aura quasiment les pleins pouvoirs. Le but avoué de la réforme constitutionnelle, c'est de créer un régime présidentiel. Le chef de l'État contrôlerait aussi le pouvoir judiciaire, puisqu'il pourrait nommer 12 des 15 membres de la Cour constitutionnelle et 6 des 13 membres du Haut Conseil des juges et procureurs. Il y a une inquiétude importante dans le camp du non, ou est-ce que vous avez constaté une forme de résignation face à ce qui semble être une inexorable dérive?
Il n'est pas acquis que tous les militants de l'AKP, canal historique en quelque sorte, voteront pour le oui. On estime en général, j'ai consulté un ou deux politologues turcs à cet égard, qu'il y a au moins un corpus, un noyau de 10% de membres de l'AKP qui désapprouvent, qui désavouent cette sorte de dérive personnaliste. Donc, il n'aura sans doute pas le plein des voix de ce côté-là. Mais c'est vrai que vous avez d'autres mesures qui sont attachées à cette réforme. Par exemple, la suppression du poste de Premier ministre. Bon, alors que le Premier ministre actuel, c'est le patron de l'AKP. Bon. Et d'ailleurs, quelqu'un qui récemment a fait le geste de ralliement des loups gris, donc cette faction ultranationaliste extrême droite, incriminée dans pas mal d'assassinats de militants kurdes ou de militants de gauche. C'est aussi un de ces gages qui sont donnés. Mais c'est un jeu dangereux, parce que si l'on va trop loin dans cette fraternisation avec l'extrême droite, je dirais, traditionnelle turque, on risque de s'aliéner une partie du corps électoral qui n'est pas négligeable. Ce sont ces Kurdes conservateurs qui sont, mais cela peut nous surprendre, des électeurs traditionnels de l'AKP.
Une réaction avec nos invités en plateau, Anne-Claire Bonneville, Stéphane Lacroix, Marc Semo, sur cette réaction d'Erdogan.
Non, c'est-à-dire qu'enfin, ce qu'on voit avec Erdogan, c'est vraiment ce retour de l'autoritarisme en force dans la région du Moyen-Orient, pas seulement dans le monde arabe. C'est-à-dire qu'Erdogan finalement est au diapason de sa région, et tout ça est très paradoxal, puisque on se souvient qu'en 2011-2012, tous ceux qui étaient en Égypte et ailleurs, Erdogan à l'époque était porté au nu, c'était le modèle à suivre. L'AKP d'Erdogan était vu comme voilà, ayant d'une certaine manière réussi cette synthèse entre un islam plutôt conservateur et puis un système démocratique, et c'était de lui que se réclamait toute une partie des candidats à l'élection présidentielle égyptienne, par exemple. D'ailleurs, de différents bords du spectre politique, Erdogan était vu comme le modèle. Et aujourd'hui, alors que le monde arabe revient vers un autoritarisme plus brutal que jamais, on a cette Turquie qui, à un moment, a pu servir de modèle et de phare, qui elle-même suit un petit peu la même voie. Donc il y a peut-être une ironie aussi dans tout ça, et on voit que la Turquie fait partie de sa région. Si c'est ça qui est important, c'est que la Turquie n'a jamais été aussi moyen-orientale.
Un grand merci en tout cas d'être passé dans notre studio ce matin, Vincent Jeu. On peut retrouver tout un dossier très intéressant consacré à la Turquie dans l'Express de cette semaine, dont votre reportage bien sûr dans le fief familial d'Erdogan. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On va quitter la Turquie pour rejoindre l'Égypte quelques jours après le double attentat meurtrier contre la communauté copte.
Toute la maison a tremblé, on est redescendu devant l'église et là les gens marchaient sur des corps, des bras. C'est quoi le but de cette horreur? Ils priaient juste, ils ne faisaient rien de mal.
Certaines mesures seront prises. À commencer par un état d'urgence de 3 mois en Égypte après la mise en place de procédures légales et constitutionnelles.
Le retour de l'état d'urgence annoncé par le président Al-Sisi après les deux attentats à la bombe revendiqués par l'État islamique contre des églises coptes à Alexandrie et Tanta, bilan 45 morts. Une nouvelle tragédie qui semble signer l'échec du président à stabiliser le pays dont il a pris la tête il y a près de 4 ans. Retour de l'état d'urgence pour 3 mois dans un pays qui a connu cette situation pendant 30 ans. Son abrogation était d'ailleurs l'une des principales revendications des militants de la place Tahrir en 2011. L'Égypte risque de connaître un nouveau durcissement dans les prochains mois. Le président Al-Sisi a érigé la question sécuritaire et la lutte contre le terrorisme au rang de priorité depuis son arrivée au pouvoir. Une politique qui lui vaut d'être largement critiquée pour la répression sans précédent qu'il fait subir à ses opposants et en particulier aux frères musulmans, partisans de l'ex-président Mohamed Morsi. L'ancien chef de l'État avait été élu démocratiquement après la révolution égyptienne avant d'être renversé par le coup d'État du maréchal Sisi en juillet 2013. Alors, comment comprendre la contraction dans le temps des attentats ces derniers mois en Égypte? 4 mois après l'attaque meurtrière d'une église copte au Caire, la brutalité de la répression par le pouvoir n'est-elle pas responsable de la radicalisation de certaines franges des frères musulmans ? Le régime d'Al-Sisi aurait-il fabriqué de nouveaux terroristes ? Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre avec Anne-Claire Bonneville, maître de conférence en histoire du monde arabe contemporain, Stéphane Lacroix, chercheur au CERI et professeur à Sciences Po, et Marc Semo. On va commencer avec vous, Marc. Le président Sisi porte une responsabilité évidente dans ce nouvel attentat, à plusieurs niveaux d'ailleurs.
Une responsabilité, oui, dans les carences des forces de l'ordre, mais surtout son annonce du retour de l'état d'urgence, même si c'est techniquement... théoriquement pour 3 mois, effectivement, est un symbole. Une parenthèse, c'est clos. On revient à ce qui était pendant 30 ans la situation à l'époque de Moubarak. Et effectivement, Al-Sisi s'affirme comme le nouvel homme fort. Alors, il a des soutiens à l'étranger. Hein, il y a Donald Trump qui dit « c'est fantastique, sa lutte contre le terrorisme ». Il a été le premier leader arabo-musulman, je crois, même avant les Saoudiens, à être reçu par le président américain. Il a le soutien de l'Arabie Saoudite. Mais il a aussi le soutien de la France. On a vendu, je ne me souviens plus du nombre de rafales d'ailleurs, mais payé par l'Arabie Saoudite d'ailleurs, à l'Égypte d'Al-Sisi. Alors effectivement, depuis le coup d'État du général Sisi, l'Égypte vit dans la répression, une répression qui vise les frères musulmans, mais aussi tous les révolutionnaires de Tahrir, les libéraux, etc. Et il est assez évident qu'une frange, minime certes, mais de cette jeunesse qui était sur la place Tahrir, qui rêvait d'une révolution, aujourd'hui a basculé par désespoir dans le terrorisme. C'est un terrorisme ensuite dont il faut souligner le caractère endogène. L'État islamique l'a revendiqué haut et fort à propos de ce dernier attentat visant les Coptes. Et on le voit notamment dans le Sinaï. Les Coptes sont une des cibles prioritaires. C'est 10% de la population. C'est la plus grosse communauté de chrétiens en Orient aujourd'hui. Et de fait, ils avaient été mis à l'écart déjà à l'époque de Nasser. Et cela a continué. Et à 3 semaines de la visite du pape François, qui vient en Égypte, c'est quand même un terrible avertissement.
Je voudrais qu'on commence avec l'identité des auteurs de ce double attentat. Le jour même des attaques, Daesh annonce les noms de ces martyrs selon la rhétorique de l'organisation. Abou Ishaq al-Masri et Abou Bara al-Masri, tous deux originaires du delta du Nil en Égypte. Mais selon le ministère égyptien de l'Intérieur, les auteurs de l'attaque seraient 2 hommes originaires de Kena, dans le sud du pays, Mahmoud Abdallah et Mamdou Baghdadi. Pourquoi ces deux versions, Stéphane Lacroix? Est-ce que c'est une manière pour les autorités égyptiennes de se dédouaner des critiques portant sur une défaillance des services de sécurité?
Il y a d'autres versions. Il y en a un qui visiblement viendrait de Suez aux dernières nouvelles. Donc moi, ce que j'ai lu ce matin, ce qui vient d'être dit, c'est plutôt qu'il y en a un qui viendrait de Kena et l'autre qui viendrait de Suez. Donc ça montre aussi qu'évidemment les autorités égyptiennes sont pas tout à fait encore au fait de ce qui s'est réellement passé, de qui sont les auteurs réels. Ils sont en train de chercher. On a par ailleurs en Égypte l'habitude, les fake news dont on parle beaucoup aux États-Unis, l'Égypte les a inventées depuis très longtemps, depuis l'arrivée au pouvoir du général Sisi. On croule sous les fake news en Égypte. On a toute une presse, souvent à scandale, qui raconte volontiers n'importe quoi, donc qui reprend des rumeurs, etc. Et puis les rumeurs sont reprises par d'autres et finalement ça devient des informations. Donc c'est vrai que pour le moment, on voit assez mal quel est le profil de ces deux terroristes. Visiblement, il y en aurait un qui serait passé par la Syrie, en particulier parce que il y a un Aboul Bara al-Masri Mansri qui apparaît dans une base de données de l'État islamique qui avait été récupérée via un membre de l'État islamique qui avait fait défection. Et visiblement, donc il y a dans cette base de données de l'État islamique, c'est l'État islamique, ça fonctionne. La fameuse Daesh Leaks. Il y a plein d'informations parce qu'en fait l'État islamique est très bureaucratique et donc fait remplir à ses membres des formulaires extrêmement détaillés. On leur demande plein de choses sur leur parcours, sur leurs études, etc. Et donc visiblement il y en a un qui serait le même. Et c'est celui qui viendrait de Suez. Ce qui montrerait donc qu'il y en a un au moins des deux qui serait passé à un moment par la Syrie. Mais là encore, ça reste à confirmer, ça peut tout à fait être... Parce qu'évidemment, Aboulbar al-Mosri, en plus, c'est un nom... Enfin, je veux dire, les deux, c'est ce qu'on appelle des kunyas en arabe. Hein. Les kunyas, c'est ce qu'on appelle quelquefois des noms de guerre, même si c'est un peu réducteur d'appeler ça des noms de guerre, parce que ça va au-delà. Enfin, c'est quelque chose qui est une manière de dénomination traditionnelle en islam. Mais ces kunyas, elles sont partagées par beaucoup de monde. Je veux dire, on peut pas identifier quelqu'un par sa kunya. Mmh. Donc voilà. Donc tout ça, il reste encore peu clair à mon avis. Et ça montre là encore, à mon avis, que les services de sécurité égyptiens sont très largement dépassés. D'où les critiques qui leur sont faites d'ailleurs de la part de la communauté copte et d'autres. C'est de dire voilà, ils sont pas capables de nous protéger. Et c'est ça qui est en train de monter aujourd'hui au sein de la communauté copte.
Dépassés, vous l'avez dit, puisque les services de sécurité égyptiens connaissaient nécessairement les identités des deux hommes dont on a parlé et qui ont été mis en avant par Daesh.
Il y en a un qui aurait été expulsé du Koweït et remis aux autorités égyptiennes
en octobre 2016. On a du mal à imaginer effectivement comment cela se fait qu'il n'ait simplement pas fait l'objet d'une surveillance suivie. Oui, c'est ça, en octobre 2016, 7 mois après la publication de ces Daesh Leaks, donc ces milliers de documents de Daesh qui ont fuité, Abu Ishaq parvient à retourner au Koweït sans être le moins du monde inquiété. On voit les graves défaillances ici, Anne Clabonneville.
Oui, tout à fait. Mais ces défaillances, enfin, je pense qu'on en reparlera dans quelques instants. On les retrouve jusque dans le Sinaï où l'État islamique est implanté, bien implanté, puisque en fait, l'État islamique a une filiale. Dans le Sinaï, qui s'appelle Vilayet Sida. Donc, et qu'est-ce qu'on constate, c'est que le système de sécurité égyptien essaye de lutter contre cette filiale avec des moyens militaires considérables. On a quand même des chars, des avions qui sont envoyés dans la zone, et en dépit de cela.
Et avec une violence parfois aveugle, il y a des villages entiers qui ont pu être ciblés, et ce qui a peut-être aussi entraîné une forme de radicalisation des populations également tribales sur place. Face à cette répression.
Tout à fait. Alors, on parle de plus en plus dans la région d'un terrorisme d'État en lien, en fait, avec la façon dont la lutte est menée par la structure étatique, puisque on a des arrestations comme ça, un peu arbitraires, des disparitions, des déplacements de population, et ça retourne finalement la population contre le pouvoir, et ça génère un certain nombre d'adhésions au mouvement d'opposition globalement.
Marc Semo.
Oui, mais au-delà de cette répression qui est comme partout d'ailleurs une répression massive dans les populations nourrie par action le choix du terrorisme, il y a aussi une partie de la génération de Tahrir, donc là, plus dans les villes, elle est certes minime, mais qui, justement, à cause de la répression, à cause de la fermeture de toute perspective révolutionnaire, a, pour reprendre les mots d'ailleurs de Stéphane Lacroix, repris le seul projet révolutionnaire disponible qui, en partie, alors dans les mots, et celui de l'État islamique.
Stéphane Lacroix.
Absolument. Alors, c'est tout à fait vrai. Même si, quand on regarde les parcours, en fait, ils viennent de certaines. Enfin, quand on regarde, par exemple, les gens qui ont perpétré l'attentat des deux églises, de ce qu'on sait de l'un d'entre eux, il vient de ce qu'on appelle le salafisme révolutionnaire. Déjà, c'est quelqu'un qui était pas, enfin, qui a pu sympathiser avec Tahrir, qui a pu être sur la place Tahrir, qui vient pas non plus des frères musulmans en vérité, qui vient d'une faction qui était dès le départ une faction assez radicale autour d'un personnage charismatique, qui s'appelle le Cheikh Hazem Salah Abu Ismail. qui promettait la charia ici et maintenant. On avait pu l'appeler à l'époque le Khomeini de la révolution égyptienne. Enfin, j'avais un ami qui disait, s'il y avait eu un Khomeini dans la révolution égyptienne, ça aurait été lui. Le contexte prêtait pas un Khomeini, donc il n'avait pas pu devenir le Khomeini qu'il aurait pu être en d'autres temps. Mais voilà, donc on avait des gens quand même qui venaient de certains groupes particuliers. On remarque que les frères musulmans se sont aussi radicalisés, mais on a relativement peu de gens qui viennent des frères musulmans qui sont passés dans l'État islamique. C'est-à-dire que les frères musulmans, il y a aujourd'hui une scission au sein de l'organisation. L'organisation des frères musulmans, pour la première fois de son existence, elle est coupée en deux, avec deux sites internet qui fonctionnent en parallèle, qui chacun se réclament de l'organisation, avec deux lignes divergentes. L'une des deux lignes est autour du leadership historique qui est en exil et qui consiste à essayer de calmer le jeu en espérant que Sisi va redevenir raisonnable et qu'on va pouvoir s'entendre. Les frères musulmans, de toute façon, ont toujours fonctionné selon ce mode-là. Les frères musulmans sont des acteurs politiques qui cherchent toujours à faire des deals. Ça, c'est la logique du leadership. Mais vous avez la base, et en particulier la base jeune qui est restée en Égypte, qui, elle, depuis quelques années, justifie de plus en plus ouvertement une violence ciblée contre les appareils d'État. C'est pas la violence de l'État islamique, parce que les frères musulmans qui prônent cette violence, ils parlent d'une violence ciblée, c'est-à-dire une violence qui viserait exclusivement la police, l'armée, mais qui ne s'en prendrait pas aux civils. Et donc les frères...
Et pas aux coptes.
Et donc, il y a deux organisations qui sont actives, qui sont issues de la jeunesse des frères musulmans en Égypte. Une qui s'appelle Hassam et l'autre qui s'appelle Liwa Thawra. Ces deux organisations, elles ont condamné par des communiqués les attentats contre les deux églises coptes, de la même manière qu'elles avaient condamné l'attentat contre la cathédrale au mois de décembre. Donc on a en fait une violence en Égypte qui est multiforme, qui n'est pas réductible à l'État islamique, même si évidemment la violence de l'État islamique, précisément parce que c'est le but, elle est beaucoup plus médiatisée. L'État islamique fait de la violence spectacle. Donc évidemment, alors qu'il y a une violence par le bas qui se manifeste quasiment tous les jours, de militants qui assassinent un officier des services de renseignement, un haut gradé de l'armée. Et ça, on l'a vu se multiplier. Et ce sont des groupes différents.
275 attaques contre les militaires et les policiers ont été perpétrées entre juillet 2014 et janvier 2015. Au début, c'était des actes terroristes qui visaient surtout les forces de sécurité. Mais les cibles ont évolué. En février 2014, il y a eu un bus de touristes coréens qui est attaqué. Un an et demi plus tard, une tentative d'attentat est déjouée à Louxor. L'objectif, c'est aussi de déstabiliser le régime en ciblant l'une des principales sources de revenus du pays, le tourisme.
Oui, c'est une stratégie classique. Déjà dans les années 90, la Gamma Islamia, qui était le groupe radical de l'époque, qui avait été à la base de l'assassinat de Sadat en 1980, puis qui était resté actif dans les années 80 et 90, avait déjà choisi cette stratégie de viser le tourisme. C'était la logique derrière l'attentat de Louxor de 97, où une cinquantaine de touristes suisses avaient été massacrés de manière absolument brutale au temple d'Hatshepsut à Louxor. Et la justification de la Gamma Islamia, c'était qu'il fallait viser l'État égyptien en portefeuille, donc en le privant de ses touristes. Donc il y a certainement chez l'État islamique cette même logique, pas seulement cette logique-là, parce que chez l'État islamique, il y a aussi, et on le voit en Irak et en Syrie, une volonté de jouer sur les clivages communautaires. L'État islamique, dès le départ, sa marque de fabrique en Irak, ça a été de jouer sur le clivage sunnite-chiite. Alors qu'Al-Qaïda s'y opposait, et on se souvient des échanges entre Zawahiri à l'époque, qui était donc numéro 2 d'Al-Qaïda, et Zarqawi, qui est le père fondateur de l'État islamique, qui n'était pas d'accord sur ça. Zawahiri disait non, il ne faut pas jouer sur les clivages communautaires. Zarqawi, dès le départ, et c'était la stratégie de l'État islamique, voulait jouer sur les clivages pour provoquer un effondrement des États. C'est ce qu'ils appellent la gestion de la sauvagerie. En fait, la gestion de l'état de nature, parce que le mot de sauvagerie, tawahush en arabe, c'est vraiment l'état de nature. Donc il faut ramener les sociétés arabes à une forme d'état de nature avec un effondrement des États qui permettra à l'État islamique de se poser comme la seule autorité étatique possible, de produire cette alternative qu'ils prétendent incarner.
J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la répression dont les frères musulmans font l'objet depuis la destitution du président Morsi en juillet 2013. Entre 20 000 et 50 000 membres de la confrérie sont aujourd'hui en prison. Des centaines d'entre eux ont été condamnés à la peine capitale. Et le régime a fait montre d'une violence inouïe lors des démantèlements, des sit-ins de protestation des frères après la chute de Morsi. Je pense en particulier au massacre de la place Rabia al-Adawiya en août 2013 qui a fait plus de 1 000 victimes. Une répression qui a entraîné donc cette radicalisation de toute une frange des mouvements islamistes qui ne croient plus à la démocratie. C'est d'ailleurs la grande force du projet djihadiste, Anne-Claire Bolville, c'est peut-être de se présenter comme un projet révolutionnaire.
Sur cette répression, je voudrais peut-être ajouter un mot, c'est qu'il n'y a pas que les islamistes et ceux qui étaient dans les campements du Caire en 2013 qui sont poursuivis. On a aussi tous ceux qui ont mené la révolution et ces jeunes révolutionnaires qui se sont retrouvés dans les prisons, dans les geôles égyptiennes avec la loi qui a été prise sur l'interdiction des manifestations. Et immédiatement, on a vu ces jeunes se retrouver emprisonnés. Donc il y a vraiment une volonté d'empêcher l'expression de toute opposition actuellement par le pouvoir.
Marc Semo ?
Oui, alors au-delà même de la répression, par rapport justement à cette perception du régime du général Sissi, est-ce que finalement on ne voit pas de façon très évidente une coupure générationnelle, c'est-à-dire entre d'un côté des jeunes qui, toutes tendances confondues, qu'ils soient islamistes, qu'ils soient libéraux, qu'ils étaient sur la place Tahrir, etc., sont d'une manière ou d'une autre cibles de la répression et qui sont ou dans l'opposition, qui sont très réticents vis-à-vis de Sissi, et puis une génération de ceux qui ont plus de 40 ou 50 ans qui, d'une certaine façon, soutiennent Sissi parce que, voilà, on retourne à des choses qu'on connaît, on retourne à des réseaux qu'on connaît, y compris des réseaux de clientèle, et que finalement, ça stabilise un peu la situation. On a l'espoir que l'économie puisse reprendre, le tourisme revenir, d'où aussi la grande inauguration du canal de Suez, du canal de Suez élargi. Voilà, l'Égypte redevient l'Égypte.
Stéphane Lacroix.
Sissi, c'est le Nasser du pauvre, quoi. Enfin, je veux dire, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, effectivement. Et ça parle à une génération qui est née à l'époque nassérienne, qui a connu Nasser, qui est restée dans cet imaginaire de ce qu'on appelle en arabe le zaïm, c'est-à-dire l'homme fort. Hein. Et puis, on a cette rupture générationnelle avec une génération de jeunes qui, eux, s'identifient pas du tout à cette logique de l'homme fort, qui est née dans un monde pluriel, en fait, parce que c'est cette génération des années 2000 qui a grandi dans une Égypte qui était plurielle, parce qu'avec l'Internet, parce qu'il y avait eu accès d'emblée à une pluralité d'opinions, il y avait accès d'emblée à une pluralité de manières d'être musulman, mais quand on était très religieux, on pouvait l'être de plein de manières. Donc, si vous voulez, cet islam, effectivement, ou cet état, pardon, égyptien, qui parle d'une seule voix avec un islam d'état, et tel qu'il était à l'époque de Nasser, mais qu'il est toujours de l'époque de Sissi, ça ne parle plus à ces jeunes. Et la meilleure preuve de ça, ça a été les élections présidentielles organisées en 2014, quand Sissi, donc, a voulu légaliser d'une certaine manière son coup d'état en se faisant élire à la présidence de la République, après avoir fait en sorte qu'il n'ait pas de concurrent valable face à lui. Et on a vu dans les queues qui, dans les grandes villes surtout, en fait, se formaient devant les bureaux de vote, essentiellement des gens qui avaient plus de 50 ans. Donc, ces images d'Égyptiens aux cheveux blancs qui allaient voter pour Sissi rappelaient effectivement cette fracture générationnelle. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas des jeunes qui passivement soutiennent, mais les jeunes qui passivement soutenaient le régime parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir de problème, ils n'étaient pas non plus prêts nécessairement à aller perdre leur matinée pour aller voter pour le maréchal.
Cette colère de la population sur les réseaux sociaux dont vous parlez se cristallise aujourd'hui autour de la personne du ministre de l'Intérieur, Magdi Abdel Gaffar, qui a été nommé par Sissi en mars 2015, après une carrière à la tristement célèbre sécurité d'État pendant 30 ans. Le hashtag « Limoger le ministre de l'Intérieur » se répand sur Twitter. L'homme symbolise finalement aux yeux de la population la permanence de ce régime de Moubarak après la contre-révolution qui a été menée par Sissi en juillet 2013, Anne-Claire Bonneville.
Tout à fait. Alors, la contestation contre ce ministre de l'Intérieur, on la voit déjà apparaître après le premier attentat contre une église en décembre. Et donc, c'est réactivé. Mais c'est vrai que quand on regarde la manière dont la police fonctionne, elle a retrouvé tous les travers de l'époque Moubarak avec l'usage d'une violence terrible, mais validée aussi par le pouvoir, qui donne un blanc-seing à la police pour intervenir, pour contrôler, entre guillemets, la population. Donc effectivement, on comprend qu'il y ait une contestation et un ras-le-bol de la population.
Les critiques les plus violentes viennent évidemment de la communauté copte, donc la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient. Maxime le redisait tout à l'heure. La hiérarchie de l'église copte a été parmi les plus enthousiastes au moment de la prise de pouvoir d'Al-Sissi.
Ils étaient à côté de lui en juillet 2013.
Hein. Les coptes seraient-ils pas justement du coup en train de payer d'une certaine façon leur soutien au régime en place, Anne-Claire Bonneville ?
En tout cas, pour l'État islamique, il est clair que les Coptes sont des infidèles, les Coptes doivent être atteints. Alors, il y a toute une question assez compliquée en fait autour de cette question des Coptes. Quand on regarde notamment la position d'Al-Azhar à l'heure actuelle et du grand imam d'Al-Azhar, qui en janvier de cette année tenait tout un discours autour du fait que la traditionnelle position des États musulmans ou majoritairement musulmans était d'avoir des chrétiens qui étaient en situation de protéger. Le grand imam d'Al-Azhar revient sur cette position en disant que c'était valable à l'époque moyenâgeuse, mais que dans la situation contemporaine, ce n'est plus une politique qu'il faut suivre et qu'au contraire, il faut insister sur la notion de citoyenneté et que les Coptes doivent être des citoyens au même titre que les musulmans et des citoyens à part entière. Et donc, il y a quand même une évolution tout à fait intéressante. Alors, après, il va falloir voir comment ça se traduit, mais je sens en tout cas des évolutions religieuses fondamentales en cours.
Les chrétiens estiment être traités par le pouvoir comme des citoyens de seconde classe. Est-ce qu'on peut toujours parler d'une discrimination quasi institutionnalisée, Stéphane Lacroix, ou est-ce que c'est justement en train d'évoluer ?
Elle perdure complètement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement dans les discours de Sissi, qui essayent de donner des preuves d'amour aux Coptes, ça les touche un petit peu. Mais en vérité, quand on regarde les pratiques de l'État égyptien, elles n'ont jamais vraiment changé. C'est-à-dire qu'il y a, depuis l'arrivée au pouvoir de général Sissi, tout autant, par exemple, de procès pour insultes à l'islam qui sont utilisés contre les Coptes. Alors c'est l'appareil judiciaire, mais Sissi n'a rien fait pour essayer de limiter ces condamnations de Coptes pour insultes à l'islam. L'année dernière, il y avait une grande affaire parce que il y avait des Coptes qui avaient fait une vidéo dans un lycée où ils se moquaient de la prière. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça avait été, de la prière musulmane, ça avait été interprété comme ça. Bon, ben c'était des jeunes, hein, des gens qui avaient une quinzaine d'années, qui ont été condamnés à plusieurs années de prison. Bon, et ça se reproduit régulièrement, effectivement. Moi, j'ai pas vu la vidéo, je sais pas si vraiment elle était aussi offensante que ce qui a été dit. Puis de toute façon, voilà, la question devrait a priori pas se poser. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais pour revenir sur la stratégie du pape copte actuel, je crois qu'il y a une vraie différence avec son prédécesseur. Et je pense que c'est assez dangereux ce qu'il est en train de faire en vérité. Moi, j'ai beaucoup d'amis coptes qui en Égypte qui partagent cette opinion. C'est-à-dire que Chenouda, son prédécesseur, était un fin politicien qui avait toujours su à la fois soutenir le pouvoir parce qu'il comprenait que les coptes étant minoritaires avaient besoin d'une manière ou d'une autre de s'entendre avec le pouvoir, mais qu'en même temps, il fallait garder ses distances.
Alors que le pape Théodore II affiche une position ouvertement favorable au régime du
président. Mais complètement acritique. C'est-à-dire, c'est un soutien inconditionnel, il est toujours à côté de Sissi, il explique que Sissi est une bénédiction pour les Coptes, etc. Ça explique la différence entre 2011 et 2013 et ce qui se passe ensuite. C'est-à-dire qu'en 2011, quand la révolution éclate, les Coptes sont vus comme étant des victimes comme les autres de la répression et du régime Moubarak. Il y a aucune violence contre les Coptes en 2011 et il y a même pas de discours qui disent les Coptes ont été des profiteurs du système Moubarak, parce que en vérité ils n'ont pas été. Ils ont été comme tous les Égyptiens discriminés, persécutés d'une certaine manière. Ils faisaient partie de cette communauté qui avait vécu la période Moubarak de la même manière. À partir de 2013, on va voir se construire cette image des Coptes qui soutiennent le régime et donc en faisant ça, effectivement, il s'expose à une sorte de vindicte de la part des acteurs de l'islam politique en particulier, puisque c'était les grands perdants de 2013. Et pour moi, voilà, le Tawadros devrait apprendre de son prédécesseur à être un meilleur politicien. Ce qui ne veut pas dire se rompre avec le régime. Je comprends bien, quand on est une minorité, il faut avoir de bonnes relations avec le régime en place. Mais il y a des manières d'avoir de bonnes relations.
Le double attentat de Tanta et Alexandrie n'intervient pas à n'importe quel moment. L'attaque a eu lieu 19 jours avant la venue dans le pays du pape François, qui doit se rendre à la mosquée Al-Azhar. Vous en parliez, Anne-Claire Bonneville, cette prestigieuse institution de l'islam sunnite. Cette visite représente finalement tout ce que Daesh exècre, c'est-à-dire le dialogue entre les religions, un islam pacifique et ouvert au dialogue. On peut dire qu'en cela, la date de l'attentat, c'est pas un hasard, Anne-Claire Bonneville.
Non, très certainement pas, évidemment. Et puis c'est aussi un moment donné où les chrétiens se réunissent tout particulièrement, puisqu'on est au moment de la fête des rameaux. C'est une grande fête religieuse et on a un afflux tout particulier dans les églises à ce moment-là. Et d'ailleurs, pour la fête de Pâques, Donc, qui aura lieu dimanche, les chrétiens signalent qu'il y aura peut-être moins de participation aux cérémonies religieuses.
France Culture, Culture Monde, Tiffaine de Roquigny.
Le foyer du terrorisme djihadiste égyptien se trouve dans le Sinaï, une zone de non-droit délaissée par le pouvoir depuis son retour à l'Égypte en 1982 et où des groupes djihadistes prospèrent depuis les années 2000. On a commencé à parler d'Ansar Beit al-Maqdis, donc les partisans de Jérusalem. Ce groupe né en mars 2011 pour empêcher la coopération d'abord entre Israël et l'Égypte. Comment s'est constitué ce groupe, Stéphane Lacroix, et quel écho trouve-t-il auprès de ces populations tribales du Sinaï ?
Alors, d'abord, la situation du Sinaï, il faut rappeler que donc quand le Sinaï a été rendu à l'Égypte, il a toujours été un peu le parent pauvre. C'est-à-dire que la vision du pouvoir central égyptien par rapport au Sinaï, c'était que le Sinaï était une région rebelle, une région qui était restée israélienne pendant trop longtemps pour qu'elle soit vraiment une région de confiance. On considérait que toutes les tribus du Sinaï, en particulier, avaient plus ou moins collaboré avec les Israéliens. Et donc, dès le départ, il y a une très grande méfiance du pouvoir égyptien par rapport à cette région, qui va être très largement délaissé par le pouvoir central, qui va du coup survivre par les trafics et la contrebande, qui va devenir la principale ressource du Sinaï. Et puis, dans le même temps, pour ajouter à cela, le pouvoir va développer la petite bande côtière du sud Sinaï autour de Sharm el-Sheikh, qui est un peu un haut lieu du tourisme balnéaire égyptien. Mais parce que, précisément, on n'a pas confiance en les populations du Sinaï, on va faire venir des gens du reste de l'Égypte pour travailler dans ces complexes balnéaires. Donc à Sharm el-Sheikh, vous trouverez très peu de gens du Sinaï en fait qui travaillent. Vous avez des gens de Haute-Égypte et du Delta essentiellement qui viennent travailler. Ce qui, là encore, ajoute au sentiment de marginalisation et de discrimination des populations du Sinaï, qui du coup ont toujours vécu en marge de l'État, et ça c'est très ancien. Alors à partir des années 2000, ça va être un terreau relativement favorable à l'émergence d'un djihadisme local. Les premiers attentats, c'était à Taba en 2004 ou 2005, si ma mémoire est bonne. Donc ça remonte bien avant la révolution égyptienne, qu'on voit se constituer ce terreau, avec là aussi souvent des liens avec la bande de Gaza et les groupes djihadistes qui se développent contre l'autorité du Hamas plutôt qu'avec, en vérité, parce que les djihadistes et Hamas à Gaza s'entendent pas nécessairement et sont plutôt en concurrence, mais il y a des liens qui vont unir les uns et les autres. Les gens traversent par les tunnels et passent d'un côté et de l'autre. Et puis, après la révolution égyptienne, effectivement, le Sinaï continuer à devenir le refuge de tous ceux qui ne trouvent pas leur compte dans la transition politique, et donc on va voir grossir ce terreau djihadiste, et puis évidemment le renversement de Mohamed Morsi, c'est le moment où ça va vraiment éclater d'une certaine manière, et ça va devenir la base de cette insurrection de bas niveau, parce que elle fait pas, c'est pas la Syrie, mais on voit régulièrement toutes les semaines des attaques contre les forces de police, des choses tout à fait surprenantes. Je vais juste mentionner ça parce que pour voir à quel point on est dans une zone de non-droit, cette ville d'Al-Arish qui est au nord Sinaï, vous avez les militants de l'État islamique qui organisent des contrôles d'identité dans les rues, qui organisent des checkpoints la nuit, ils sortent et ils organisent des checkpoints, ils demandent les cartes d'identité en particulier pour essayer de repérer les chrétiens. Donc on est quand même dans quelque chose où vous avez une présence des militants qui même n'hésite pas à sortir complètement de la clandestinité et à se mettre au milieu de la ville pour organiser un checkpoint. Donc on est quand même dans quelque chose qui va au-delà d'une organisation clandestine comme on pourrait l'imaginer.
Et est-ce que le Sinaï pourrait, selon vous, constituer une zone de repli pour des combattants de l'État islamique qui sont cernés de toutes parts en Irak et en Syrie ?
Non, parce qu'ils n'arriveront pas à passer, a priori. Ce sont essentiellement des Égyptiens. Le pouvoir, si vous voulez, toute la rhétorique du pouvoir Sissi, c'est de dire c'est pas nous, c'est les étrangers. C'est-à-dire que Sissi a construit une sorte de grand mythe qui est celui d'une Égypte attaquée par un complot. C'est un peu, d'ailleurs, ça rappelle Erdogan d'une certaine manière, la rhétorique du complot. On a face à nous une coalition avec les Occidentaux, l'Iran, Israël, les islamistes, et tous ces gens-là, évidemment, s'entendent. Dans la logique du complot, tout est possible. Et puis les Syriens, et puis les Palestiniens, qui ont été d'ailleurs victimes après l'arrivée au pouvoir de Sissi de persécutions en Égypte, parce qu'ils sont vus comme étant des soutiens nécessaires du complot. Et donc voilà, donc on va vous expliquer que l'État islamique, en fait, c'est quelque chose d'importé. C'est pas du tout importé, ce sont des Égyptiens essentiellement qui sont entrés dans cette logique de violence pour des raisons qui ont trait au contexte égyptien. Et je crois qu'on peut pas analyser l'État islamique et le phénomène de cette violence en Égypte sans revenir, mais c'est de ça qu'on était parti dans l'émission, du contexte égyptien, de la répression de 2013 et du pouvoir de Sissi. Voilà.
Dans cette lutte contre le terrorisme, le président Sissi peut compter sur un nouveau soutien, Donald Trump, qui avait qualifié le dirigeant égyptien de type fantastique. Les deux chefs d'État se sont rencontrés il y a quelques jours à Washington et la cordialité affichée par les deux hommes était loin, très très loin de l'extrême froideur des relations entre Sissi et l'administration Obama, Anne-Claire Bonneville.
Tout à fait, tout à fait.
Il y a une vraie rupture.
Vraie rupture, et il faut aussi voir derrière des questions financières. Il faut pas les oublier. L'Égypte, après avoir fait la paix avec Israël, bénéficie d'un soutien financier américain tout à fait important.
1,5 milliard de dollars.
Exactement. Alors, au moment où a eu lieu l'arrivée au pouvoir et donc le coup d'État de Al-Sisi, les Américains se sont posé la question de savoir si on continuait à donner des subventions aux Égyptiens. Ces subventions ont donc été mises en attente pendant un an et demi à peu près. Bon, et puis elles ont été relancées en 2015. Et là, actuellement, la politique de Trump, c'est de couper de façon importante les aides à l'international. Et la position de Sisi, c'était d'aller négocier notamment avec Trump pour que les aides à l'Égypte ne soient pas trop diminuées. Et Trump l'a assuré qu'il y aurait toujours une aide forte donnée à l'Égypte. Et ça, c'était tout à fait important pour le pouvoir égyptien.
Un dernier mot, Stéphane Lacroix, on arrive au terme de cette émission.
Chez Sissi et chez Trump, la même vision binaire d'une région qui serait, il y a les djihadistes d'un côté, puis il y a les autres de l'autre. Donc comme les djihadistes sont nos ennemis, tout ce qui n'est pas djihadiste est notre ami. Et c'est un peu cette binarité qui est la marque de fabrique de Sissi. C'est exactement le discours de Trump. On comprend bien que les deux hommes étaient faits pour s'entendre.
C'est la fin de cette émission. Un grand merci à tous les trois de nous avoir accompagnés ce matin. Anne-Claire Bonneville, maître de conférence en histoire du monde arabe contemporain. Stéphane Lacroix, chercheur aux séries et professeur à Sciences Po. Et bien sûr, Marc Sebo, journaliste au Monde. Il est 11h52, l'heure de retrouver Brice Couturier et le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Tiffaine.
Notre chaîne France Culture consacre une journée au thème de la République et de la laïcité. Une occasion de se demander ce qu'en disent les revues, les think tanks et les sites étrangers qui fournissent matière à vos chroniques.
Oui, j'ai demandé à mes amis et partenaires de World Crunch de m'alimenter en liens intéressants. Et ce qui m'a frappé, figurez-vous, c'est que l'essentiel de ce qu'ils m'ont déniché à ce sujet datait de l'été dernier. La presse internationale a énormément commenté l'affaire du Burkini, désolée de toucher notre orgueil national, mais notre République a depuis cessé de passionner le monde. À l'époque et dans l'ensemble, les éditorialistes avaient tendance à comparer notre conception de la laïcité avec la formule séculariste, qui s'avère beaucoup plus souple. Mais les exceptions sont intéressantes. Ainsi le cas de l'Uruguay. Ce pays coincé entre les deux grands pays catholiques que sont le Brésil et l'Argentine est l'un des rares au monde à avoir adopté une laïcité très proche de la nôtre. Dès sa constitution de 1917, il a entériné le principe de la séparation de l'Église et de l'État et écrit Juan Carlos Carrasco dans El Observador, les deux s'en trouvent fort bien. L'État et l'Église y ont gagné la liberté de poursuivre chacun leur propre chemin en toute indépendance. Alors sur le Burkini, Carrasco était partagé. D'un côté, il écrivait que en France, comme en Uruguay, les religions ne doivent pas se manifester dans l'espace public et que la liberté d'expression ne doit pas être limitée eu égard à la sensibilité des croyants. Mais il estimait aussi abusif d'interdire aux musulmanes qui le désirent le port du burkini. En Iran, dit-il, la police traque les femmes insuffisamment couvertes. Sur la Côte d'Azur, une autre police met à l'amende celles qui le sont trop. Pourtant, l'Iran est un État religieux et la France un État laïque. Un tel État ne devrait pas se mêler de réglementer les tenues des baigneuses. Aux Uruguayens, cela rappelle trop le temps où les militaires interdisaient aux hommes le port des cheveux longs et de la moustache descendant en dessous de la commissure des lèvres, signe d'appartenance à la mouvance gauchiste.
Voilà pour le Burkini, Brice, mais il s'agissait d'une affaire qui date déjà de l'été 2016. Il n'y a donc plus d'intellectuels étrangers pour s'interroger sur le rôle que joue le thème de la République dans nos élections ?
Et ben, ce qui me frappe, Tiffen, c'est que de plus en plus, c'est à des intellectuels français qu'on demande de commenter notre vie politique. Le grand think tank américain Carnegie Endowment publie un article d'Alice Baudry et de Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne. Sur le site Project Syndicate, c'est Dominique Moisy de l'IFRI qui s'y colle. Dans le mensuel Prospect, l'article consacré à Emmanuel Macron est signé de notre Christine Ockrent. Et dans Standpoint, on lit un long article de Michel Gurfinkel. Cela signifie-t-il qu'on considère désormais que seul un regard français peut démêler l'imbroglio national? Alors, une exception enfin, le site Spiked, décidément très intéressant, qui vient de publier un article de fond signé Julian, il est sûrement anglais, Lagnado. Jamais en apparence, la République ne s'est si bien portée en France, constate cet auteur avec ironie. De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, tous les candidats aux élections présidentielles françaises affichent un attachement sans faille à un idéal républicain qui n'est contesté par personne. La droite néo-gaulliste a même poussé cette posture jusqu'à revendiquer le monopole de l'appellation « les républicains ». Mais le républicanisme prend des sens bien différents selon les cultures, poursuit-il. Quelle est la particularité de cette invocation dans le cas français? Et ma réponse de ce Julian Lagnado, la République française se ressent de son origine. Même si la plupart des Français n'en ont plus conscience, ce régime prend naissance dans la menace étrangère et l'urgence pour le peuple en armes de courir aux frontières. Car le sentiment républicain français a connu le baptême en pleine révolution à Valmy, en réaction au risque de voir les armées autrichiennes et prussiennes marcher sur Paris et rétablir la monarchie à la pointe des baïonnettes. Depuis lors, en France, la République, prétend toujours Julian Lagnado, est liée à la lutte nationale pour l'existence. Cela explique son caractère étrangement belliqueux. Mais ajoute-t-il, ce sentiment de fragilité a toujours été pour les Français une source de résilience. La République fut proclamée en septembre 1870 alors que les Allemands avaient envahi le pays et s'apprêtaient à mettre le siège sur sa capitale. Une fois de plus, les Français ont voulu croire en la capacité de ce régime de renverser une situation militaire désastreuse en appelant le peuple aux armes. Cela induit des conséquences qui ne sont pas toutes bénéfiques pour la société française, poursuit notre auteur. Entre autres, une relation insuffisamment médiatisée entre le citoyen et l'État. Faute de corps intermédiaires puissants et reconnus, les catégories sociales qui se perçoivent comme lésées se tournent directement vers l'État. D'où la violence étonnante aux yeux des étrangers de nos manifestations. Et cette vulnérabilité de tout le système politique français face aux minorités, relevée par Hannah Arendt en mai 68, est un des témoignages de cette chose. Autre chose, le républicanisme français du 19e siècle était universaliste. Il a soutenu par exemple le printemps des peuples de 1848. Mais celui d'aujourd'hui tend au contraire à l'isolationnisme, au protectionnisme. Il est hostile en particulier à la mondialisation. La dernière grande manifestation républicaine, selon Spiked, fut celle du 11 janvier 2015 pour Charlie. Aujourd'hui, écrit Julian Lagnado, cette unité est en lambeaux et il ajoute « Ce qui est frappant, c'est le bas niveau du sens civique et de la fierté nationale chez le peuple français. » En outre, déplore-t-il, la liberté d'expression chez nous a régressé.
Merci beaucoup Brice, on peut réécouter vos chroniques en podcast et sur franceculture.fr. Et merci à toute l'équipe de Culture Monde, Camille Imbert, Clémence Alzard, Samuel Bernard et Anne-Sophie Pierry. Lundi, vous retrouverez Florian Delorme pour une semaine consacrée à la question des famines dans le monde. Et dans un court instant, c'est la grande table avec Olivier Gesbert.